Seigneur ce matin pour sa parole. Alléluia Jésus. Tu peux bénir le Seigneur pour sa parole. Glorifie Dieu pour sa parole. Corre baba baba chaque la 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 baba baba baba. Corre baba 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 la chaque le nom de l'oro chaque la 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 baba chaque la 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 baba la chaque. Corre baba baba la chaque la baba baba baba. Dieu vivant d'Israël, merci. Merci Dieu vivant d'Israël pour ta présence dans cette salle ce matin. Nous savons que tu es là. Et tu vas nous parler encore ce matin. Alors que nous avons tissé une alliance nouvelle avec toi, tu veux réécrire une nouvelle histoire. Avec nous, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Et ce matin, enseigne-nous comment vivre dans cette nouvelle alliance avec toi. Enseigne-nous comment nous tenir. Enseigne-nous comment marcher dans cette alliance avec toi. À partir d'aujourd'hui et dans le restant des jours qui vont suivre, enseigne-nous comment vivre dans cette alliance nouvelle avec toi. Merci d'ouvrir notre entendement spirituel ce matin et de nous aider à comprendre un mystère de ta parole. Merci Seigneur oh Dieu pour ce que tu vas enseigner ce matin, le mystère que tu vas enseigner ce matin. Merci pour les autres mystères que tu enseigneras dans le restant des jours pour nous apprendre à vivre dans l'alliance. Que ton nom soit glorifié, Dieu vivant d'Israël. Bénis ton peuple ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Dieu. Qui a été béni par cette saison sur l'Alliance et tous les enseignements qu'on a eus sur l'Alliance, qui a vraiment été béni par Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons vraiment passé... Sans nous rendre compte, on a passé quasiment 2 mois sur le thème de l'Alliance. On a vu ce que c'était l'Alliance, tous les contours de l'Alliance. Je ne pense pas qu'on ait pu, malgré tout ce qu'on a pu enseigner, vraiment décortiquer tout le sujet de l'Alliance parce que c'était un sujet vaste. Mais nous croyons que l'essentiel a été dit, l'essentiel pour nous, parce que Dieu parle en fonction des besoins de son peuple. Et l'essentiel pour nous a été dit pour que nous puissions comprendre ce que c'est réellement l'Alliance, le mystère de l'Alliance, que nous puissions réellement rentrer dans une nouvelle dimension d'Alliance avec Dieu et que nous puissions vraiment comprendre les enjeux de cette Alliance-là, les conséquences de cette Alliance, tant sur le plan positif, si nous respectons l'Alliance de Christ, et sur le plan également négatif, si nous ne respectons pas. Et tout a été dit, et je bénis le Seigneur vraiment pour cette saison sur l'Alliance. Et ce matin, Dieu met sur mon cœur, dans cette continuité, bien sûr, nous enseigner sur un principe important. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui du pouvoir de la grâce. Le pouvoir de la grâce de Dieu. Et ça va être vraiment dans la continuité de cette série d'enseignements sur l'Alliance. Et je bénis le Seigneur pour le message du dimanche dernier où le docteur Jean-Juste Victor Bonneau a parlé de la justification, en fait, en d'autres termes. Il parlait de la justification dans l'Alliance. Et souvent, quand on enseigne sur le message de la justification, c'est très, très délicat parce que le fossé est très fin. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être imaginer que lorsque Dieu nous parle de sa justice, que nous avons été gratuitement justifiés, comme il a si bien expliqué dimanche dernier, on aurait l'impression vraiment que Dieu nous donne là, en fait, le droit légal de vivre dans le péché. Mais il n'en est pas ainsi, en fait. La Bible déclare que quand vous lisez le livre de Romains, est-ce que parce que la grâce abonde, Dieu nous donne-t-il maintenant le droit de vivre librement dans le péché? Non. Ce n'est pas parce que Dieu dit que là où le péché a abondé, sa grâce surabonde, que maintenant nous avons le droit de vivre librement dans le péché. C'est vraiment mal comprendre ce verset. Et ce matin, Dieu a mis sur mon cœur vraiment de parler du pouvoir de la grâce. La grâce a un pouvoir. Je vais parler de la grâce de Jésus à la croix. La grâce de Dieu a un pouvoir sur notre vie. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Nous allons même lire un peu plus haut. Pour mieux comprendre le contexte, on va lire un peu plus haut. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 5. Alors, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. L'apôtre Paul nous parle ici d'un homme. En fait, il s'agit simplement de lui, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Alors, il ne peut pas dire si cette sortie spirituelle de son corps a été faite avec son corps ou sans son corps. Et vous savez, l'expérience des choses spirituelles, parfois, est très délicate. Parce que dans le monde, en fait, il y a des gens, par exemple, qui sortent hors de leur corps. On appelle ça des projections astrales et qui vont effectivement dans le monde spirituel, ils vont faire des expériences, ils vont faire des choses. Mais l'apôtre Paul a expérimenté une dimension de l'esprit à tel point que là où il était, sans même être physiquement présent au milieu de ses frères, il pouvait être là avec eux et entendre ce que ses frères disaient et entendre, écouter ce que ses frères étaient en train de dire ou de faire. Et même voir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand vous lisez ses épîtres, il dit, je ne suis pas avec vous, mais je suis avec vous en esprit. Je suis absent de corps, mais je suis présent avec vous en esprit. Il ne le disait pas juste parce que c'était une parole de consolation pour ses frères, mais il le disait en réalité parce qu'il avait expérimenté une dimension de l'esprit qui lui donnait la possibilité d'être présent dans un endroit de façon spirituelle sans que son corps ne soit là. C'était véritablement une expérience réelle. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes là en train de parler, en train de prier. Lui, il entend ce que nous sommes en train de dire et il peut même voir ce que nous sommes en train de faire. Et dans la Bible, nous avons vu plusieurs expériences où effectivement, des hommes de Dieu ont eu la capacité de détecter dans des endroits bien précis ce qui se passait. Pourquoi? Parce que Dieu peut nous donner la capacité de sortir et de rentrer dans l'esprit, dans le monde spirituel et de vivre les mêmes expériences. Et l'apôtre Paul ici est en train d'expliquer qu'il a vécu cette expérience-là. Il est allé jusqu'au troisième ciel. Et arrivé sur le troisième ciel, il a vu le paradis. Et il a entendu des choses qu'aucun homme n'a point entendues. Il a vu des choses qu'aucun homme n'a point vues. Et il pourrait se glorifier de l'expérience qu'il a eu à faire avec le Seigneur. Mais il ne se glorifie pas. Et il poursuit en disant ceci. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Notez infirmité. Je voulais me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité. S'il voulait se glorifier de ses expériences, il se glorifierait. Il dirait la vérité, il ne serait pas insensé. Même si aux yeux des hommes, les gens penseraient qu'il est insensé. Mais il sait lui-même au fond de lui que ce qu'il a vécu est réel. Mais pourtant, il ne se glorifie pas. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Dites une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est-à-dire un démon. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, ici il ne s'agit pas d'un homme ordinaire. Il ne s'agit pas de toi et moi. Bon, quoique nous ne sommes pas aussi des hommes ordinaires. Attention, nous sommes des Christ. Alléluia. On l'a appris pendant cette saison sur l'Alliance. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici de n'importe qui. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est le 13e apôtre de Jésus. C'est celui qui a marché avec Jésus sans que Jésus ne soit sur la terre. Les 12 autres apôtres ont marché avec Jésus pendant que Jésus était sur la terre. Donc, ils ont parlé avec Jésus face à face. Ils ont touché les mains de Jésus. Il y en a même qui dormaient sur la poitrine de Jésus, tel que Jean, qui aimait tellement Jésus, qui dormait sur sa poitrine. La Bible déclare que tous les apôtres qui ont connu Jésus, physiquement, aucun d'entre eux n'a eu l'excellence de la révélation que l'apôtre Paul a eue en ce qui concerne les saintes écritures et en ce qui concerne la connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu, la connaissance du monde spirituel. Il a été le 13e apôtre, il est venu après Jésus, mais il a eu la plus grande révélation de la parole de Dieu dans tous les mystères. Quand vous lisez l'apôtre Paul, vous pouvez découvrir la puissance, la profondeur de la révélation de la parole de Dieu. La façon dont il décortique les écritures, la façon dont il, l'excellence même le dit, l'excellence avec laquelle il dispense la parole de Dieu. Il avait un niveau de connaissance qui pouvait même confondre les sages de ce monde. Il avait un niveau de puissance que même les autres apôtres qui ont marché pourtant avec Jésus n'ont pas connu, n'ont pas expérimenté. Et la Bible déclare que cet apôtre Paul-là, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, avait une infirmité. Il a connu des choses extraordinaires. Lui-même le dit. Il a dit qu'il est sorti même de son corps, ou c'est dans son corps, ou c'est hors de son corps, il ne sait pas. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il est arrivé jusqu'au troisième ciel. Et il a vu des choses qu'aucun homme n'a pas vues. Il a entendu des choses qu'aucun homme n'a jamais entendues. Et il dit, dans sa chair, il lui a été placé une écharde, une infirmité causée par un esprit, un ange de Satan, c'est-à-dire un démon qui était là. Alors, les gens se posent la question, est-ce que l'apôtre Paul était possédé ou pas? Une écharde. Alors, je ne crois pas que l'apôtre Paul était possédé. Il dit bien qu'il a été placé un ange, une écharde. L'écharde, c'est un poids. Mais le poids a été occasionné par un ange de Satan qui était à côté de lui et qui lui soufflait. Le mot souffler ici veut dire en fait qui le pressait, qui amenait vers lui une atmosphère, une oppression. Voyez-vous? Donc l'esprit était à côté et l'esprit amenait sur lui, sur son corps, une oppression. Et chaque fois que l'esprit voulait mettre une oppression sur lui, il soufflait, il envoyait un vent, un souffle, une puissance, une force pour pouvoir mettre sur le corps de l'apôtre Paul un poids. Quelque chose qui l'empêche vraiment de vivre comme il veut, qui restreint sa liberté, quelque chose, comme on l'a vu en fait, qui l'oppresse. Et c'était difficile pour lui, parce que dans son corps, dans sa chair, il pouvait ressentir ça. Mais le démon était à l'extérieur, et il soufflait ces choses-là. Voyez-vous, c'est comme quand l'Esprit de Dieu vient, souffle sur nous, nous pouvons ressentir soit un rafraîchissement, comme nous pouvons ressentir un poids qui vient sur nous, c'est la gloire, Shekinah de Dieu. Et je me souviens encore, il y a quelques jours, je priais avec une sœur à la maison. On a veillé et prié parce qu'on faisait un travail avec elle. Et puis, vers 3h du matin, pendant que je priais avec elle, j'ai senti dans mon esprit le besoin de l'imposer les mains. Parce que c'est une sœur qui était vraiment très tourmentée par des malédictions, des choses. Alors, je lui rappelais le message qu'on a eu ici sur l'identité et dans l'alliance, et je lui ai dit maintenant, je ne crois pas que tu sois possédé, mais je crois que c'est simplement des influences qui sont en train de t'assaillir. On va prier. Et quand je lui ai imposé les mains, elle dit qu'à l'instant où je lui ai imposé les mains, parce que moi, j'étais un peu perturbé, vous savez, vous venez de dire à quelqu'un, tu n'es pas possédé, et puis après, vous lui imposez les mains. Quand vous lui imposez les mains, la personne, boum, elle tombe. Et tu te dis, est-ce que c'est un démon qui s'est manifesté? Ou est-ce que c'est quoi? Et à la fin, ça m'a rassuré parce que la personne, elle m'a dit, en fait, quand vous avez prié tout à l'heure, vous m'avez imposé les mains, j'ai senti comme un poids. J'ai d'abord senti comme un vent qui a soufflé, et ensuite un poids qui est venu sur moi. Et ce poids n'était pas quelque chose de négatif, mais je sentais comme la gloire de Dieu qui tombait sur moi. Effectivement, le mot gloire veut dire kabot. Kabot, ça veut dire le poids. Le poids qu'amène le souffle de l'esprit. Alléluia! Et c'est ça que le diable fait exactement dans le sens inverse. Il souffle sur nos vies et il amène des poids sur nous. Et l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ce qui s'est passé en ce qui le concerne. Donc ce démon qui était à côté de lui et qui soufflait sur lui. Et qui amenait un poids, une écharde dans sa chair. Et l'apôtre Paul dit qu'il a prié, il a prié. J'imagine même le connaissant, il a certainement dû jeûner. Pour demander à Dieu de l'enlever ça. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Comment la grâce de Dieu peut-elle nous donner la capacité de vivre dans un contexte d'oppression, dans un contexte d'épreuve, dans un contexte difficile? Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que tu n'as pas forcément besoin que ton infirmité te quitte. Même si la volonté de Dieu et le souhait pour nous, c'est que tu sois délivré de ton infirmité. Quand je parle d'infirmité ici, je ne parle pas forcément d'infirmité physique. Je parle d'infirmité dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les choses qui t'accablent dans ta vie. Les choses qui, en fait, t'empêchent de vivre, humainement parlant, le bonheur que tu espères vivre dans le plein épanouissement que tu veux réellement expérimenter avec Dieu sur la terre. Peut-être que c'est une infirmité au niveau spirituel. Peut-être que c'est une infirmité au niveau social. Peut-être que c'est une infirmité au niveau conjugal. Peut-être que c'est une infirmité au niveau intellectuel. Bien-aimés, chacun d'entre nous, nous pouvons avoir des infirmités. Et c'est sûr, nous avons des infirmités. L'infirmité ici, c'est le manquement. L'infirmité, c'est quelque chose, en fait, qu'on n'arrive pas à accomplir parfaitement ou pas du tout. C'est un manque. Et la Bible nous enseigne au travers de l'expérience de l'apôtre Paul que, en fait, nos manquements, nos infirmités ne sont pas un obstacle à l'action de Dieu dans notre vie et au travers de notre vie. Car l'apôtre Paul ici, qui avait une infirmité, une écharde dans sa chair, faisait avec Dieu des expériences qu'aucun homme n'a pas pu réaliser. Donc ce que tu peux vivre comme infirmité ne peut pas t'empêcher d'aller au niveau où Dieu veut t'amener. C'est ça le pouvoir de la grâce. Le pouvoir de la grâce nous amène à transcender même les limites de nos infirmités. Et quand vous lisez le livre de Romains chapitre 5, Romains chapitre 5 nous explique ce que c'est réellement le pouvoir de la grâce. Il explique ça, vous lirez tout le chapitre à la maison. Il appelle ça le don de la grâce. C'est un don. La grâce est un don. Et souvent quand je lisais le passage qui dit, si le péché, là où le péché a abondé, la grâce surabonde, je croyais qu'en fait, plus le péché augmente, dans ma vie, plus la grâce de Dieu va aussi augmenter. Ça veut dire qu'en fait, donc, il faut que je pêche beaucoup pour que je puisse avoir beaucoup la grâce de Dieu. De prime abord, quand vous lisez ce passage, c'est comme ça que vous le comprenez, n'est-ce pas? Moi, je l'ai compris comme ça, la première fois où je l'ai lu. Mais Dieu a ouvert mes yeux en lisant le livre de Romains chapitre 5. Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, quand il parle de la grâce ici, il ne s'agit pas de la grâce dans le sens seulement de la faveur. C'est-à-dire que Dieu te fait la faveur, que tes péchés sont pardonnés, il te fait la faveur, gratuitement tu es justifié, comme on l'a appris dimanche dernier. Il ne s'agit pas que de ça. Quand il parle de la grâce ici, il parle du don de la grâce. Le don de la grâce. C'est quoi le don? Le don est une capacité surnaturelle, imméritée, qui nous est accordée par Dieu, pour réaliser ou accomplir quelque chose que humainement parlant de nous-mêmes, on ne peut pas accomplir. C'est ça la grâce. C'est ça le don. Et quand on parle du don de la grâce, il y a plusieurs dons de grâce. Dans chaque situation de nos vies, il y a plusieurs manières selon lesquelles Dieu manifeste son don de grâce. Pour une personne, par exemple, qui est sous l'oppression, comme l'apôtre Paul, qui est opprimé par un démon, un ange du diable, qui lui met un poids sur la chair, dans sa chair. Pour une personne qui est incapable d'accomplir une œuvre, l'œuvre de Dieu même, d'accomplir le ministère auquel il a appelé, une personne qui ne peut même pas prêcher, une personne qui ne peut même pas parler hardiment, c'était le cas d'apôtre Paul, il avait du mal à parler hardiment. Voilà pourquoi quand vous lisez cet épître, il disait à chaque fois, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche et de parler hardiment, de dispenser librement le mystère de l'évangile. Que quand j'ouvre la bouche, je parle avec éloquence, que je parle avec hardiesse. » Voilà, c'était ça son problème. Et il demandait qu'on prie pour lui. Pourquoi? Parce que quelque part, c'était une faiblesse à son niveau. À côté de lui, il y avait quelqu'un qui parlait même mieux que lui. Il s'appelait Apollos. Apollos était très éloquent. Il n'avait pas ce problème-là. Mais l'apôtre Paul avait ce problème. Mais pourtant, l'apôtre Paul ici, étant incapable de parler hardiment, parce qu'il avait des poids, il avait quelque chose qui l'empêchait réellement de se mouvoir librement dans sa vie, va demander à Dieu, va prier à plusieurs reprises pour que Dieu l'enlève ça, afin qu'il ait la capacité de parler comme Apollos. Et je me demande, ça c'est quand j'analyse les choses, parce que je me dis, pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à ce point? Parce que vous savez, le contexte à l'époque était très difficile. Hein? Il y avait plusieurs apôtres. Tu avais un gars comme Pierre. Quand il marchait seulement, des choses se passaient, son ombre. Tu avais un gars comme Jacques qui était vraiment d'une sagesse inouïe. Et à côté des apôtres qui étaient reconnus, tu avais des gens qui n'étaient pas très connus, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui dans le peuple avaient une certaine influence, avait une certaine influence, un impact puissant et qui était très écouté du peuple. Vous avez déjà comme Apollos. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'à cette époque-là, il y a eu des problèmes parce qu'il y en a qui disaient « Je suis d'Apollos », d'autres de Paul. Pourquoi? Parce que Apollos était très puissant. Apollos était très éloquent. Apollos, il avait une influence. Alléluia. Et donc, vous imaginez l'apôtre Paul dans un contexte pareil, il disait « Seigneur, vraiment, accorde-moi de parler comme Apollos, j'imagine. » Mais le Seigneur lui dit non, ma grâce te suffit. Parce que là où il y a ta faiblesse, c'est là où s'accomplit ma puissance. Donc Dieu va faire de la faiblesse de l'apôtre Paul une force. Voyez-vous une personne comme l'apôtre Paul qui n'arrive pas à faire des choses, qui aspire, qui soupire, qui veut même en fait arriver au point où d'autres sont arrivés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Seigneur, aide-moi. » Mais Dieu lui dit une chose, je ne vais pas te donner humainement parlant ces choses-là, je vais te donner simplement un don que tu n'as pas, le don de ma grâce. La capacité que tu n'as pas sur le plan humain de faire ce que tu n'arrives pas à faire sur le plan humain. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia! Bien-aimé, dans le ministère, quel que soit le niveau d'études où tu es arrivé, je vais te dire aujourd'hui, Dieu est capable de te donner un don de grâce qui fasse en sorte que tu vas réaliser des choses que même les gens n'ont pas pu réaliser, même les gens qui ont fait des études théologiques, qui sont allés dans des grandes universités théologiques, qui ont fait des instituts bibliques, ne pourront jamais réaliser. Toi, quand Dieu t'a donné la grâce, bien-aimé, tu vas faire des choses qu'aucun homme n'a pas pu faire. C'est ça le don de la grâce. Un pouvoir surnaturel d'accomplir des choses que, humainement parlant, tu n'aurais jamais pu accomplir. Quand vous voyez Pierre, Pierre était un pêcheur. Il n'a pas fait des études. La seule chose qu'il connaissait, c'est la pêche. Mais quand Pierre arrive, bien aimé, la façon dont Dieu utilise Pierre, on dirait quelqu'un qui a fait des bacs plus 5, bacs plus 10. La sagesse, la façon de dispenser la parole, au point que lorsqu'il se lève devant tout le monde, hein, il parle 3000 personnes dans leur cœur à Jésus à l'instant même. J'imagine que les gens qui ont connu Pierre à l'époque, avant qu'il ne soit disciple de Jésus, devaient s'étonner, mais cet homme, où est-ce qu'il a eu cette connaissance? Où est-ce qu'il a eu cette sagesse? Où est-ce qu'il a eu cette puissance, cette capacité. Parce que le don de Dieu transforme ta vie à un point que même sur le plan humain, tu vas réaliser des choses que tu n'étais pas capable de réaliser avant. Ça, c'est le don de la grâce. Il se manifeste dans tes faiblesses. Le don de la grâce se manifeste dans tes manquements. Le don de la grâce se manifeste dans tes insuffisances. Pour quelqu'un, par exemple, qui n'est pas marié, un célibataire, et qui dit, moi, c'est difficile. Vous qui êtes marié, vous pouvez. On a déjà eu des discussions comme ça, certaines personnes. Vous qui êtes marié, c'est facile pour vous de dire ça. De dire, oui, vraiment, il faut s'abstenir. Oui, vraiment, il faut attendre le mariage, etc. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment, la vie de célibat, ce n'est pas facile. Quand on est seul, surtout quand on est jeune, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. La Bible nous parle, par exemple, des tribulations de la chair. L'apôtre Paul qui le dit. C'est-à-dire les persécutions de ton corps. Ton propre corps à toi te persécute. Ton propre corps te persécute. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous parle des tribulations de la chair. Et c'est vrai qu'à certaines périodes de la vie, de la jeunesse, de l'adolescence, ou de la puberté, il y a des pulsions, il y a des choses qui montent dans votre corps et qui vous persécutent. Pour les frères, tu dors, tu te réveilles. À 3h du matin, tu as fait un rêve compliqué. Mon père spirituel appelait ça les rêves humides. Alléluia. Tu es là, tu me dis, Seigneur, comment je veux faire? Et le diable te dit, mais il vient, il te souffle à l'oreille. Il dit, mais tu vois, c'est normal, tu es un jeune garçon, tu es à l'âge où tous les jeunes garçons, normalement, doivent avoir une petite amie. Donc, si tu le fais, tout le monde te comprendra. C'est normal. Il n'y a que vraiment vous, là-bas dans vos églises, vous êtes tellement extrémistes. Il n'y a que vous qui ne pouvez pas comprendre ça. Mais sinon, tout le monde dans le monde entier sait que, à cette période de la vie, chaque jeune a au moins une petite amie. Chaque jeune fille a au moins un petit ami. Et puis quand tu vas à l'école, tout le monde te trouve bizarre. Parce que toutes les jeunes filles de ton âge, de ta génération, ont un petit ami. Font la fête. Le jeudi, le vendredi, le samedi, vont en boîte, font des choses. Et toi, tu es comme un peu marginal. On te dit, mais c'est pas possible. Celle-là, elle est déconnectée de réalité, elle n'est pas à la page. Et au risque même qu'on te projette des étiquettes du style jeune vieux. Et voyez-vous, toutes ces choses autour de nous vont nous persécuter, vont nous acculer, vont nous oppresser. Et humainement parlant, on aurait raison de dire, normalement, à cet âge, je dois avoir un petit ami. Donc, humainement, on aurait raison d'avoir un petit ami, une petite amie. Humainement parlant. Parce que, humainement parlant, on ne peut pas supporter ça. Dis à ton frère, humainement parlant, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas. De toi-même, tu ne peux pas. Donc, si tu me dis que tu peux, la Bible déclare que non seulement tu es menteur, mais tu fais Dieu menteur. Et en plus, tu te mens à toi-même. Humainement, tu ne peux pas. Non, mais soyons sérieux. Humainement, tu ne peux pas. Il y a tout dans le monde pour faire en sorte que nos jeunes, aujourd'hui, tombent dans le péché et fassent des bêtises. Tu vas au supermarché et quand j'ai en publicité, tu vois une femme nue. On te sort un nouveau produit qui intéresse la jeunesse. Ok? Et à côté de ce produit-là, comme ce sont les high-tech aujourd'hui, iPhone ou encore, comme disait quelqu'un, iPhone, iTunes égale iSouci. iProblème. On va tout faire pour attirer votre attention sur ces choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde veut vous séduire. Et pour vous séduire, pour vous attirer, on va mettre à côté une image de quelqu'un qui est quasiment nu. Et donc tu regardes le produit, mais tu es obligé de voir aussi l'image. Au même instant, des messages subliminaux passent dans ta conscience, dans ton subconscient, et tu ingurgites ça, et du coup, finalement, sans te rendre compte, ces messages émergent, ça produit des rêves, ça produit des pulsions, ça produit des idées, des pensées, ça veut même influencer ton comportement, ça te pousse à faire des actes que Dieu ne veut pas. Tu conduis, tu arrêtes au feu, paf, il y a panneau publicitaire. Paf. Tu vois une femme nue. Le temps d'attente là au feu, tu peux faire quoi, rababaché, kababa. Tu as vu, frère, tu as vu. Tu as déjà vu. Tu peux dire alléluia. Tu as déjà vu, frère. Alléluia. Donc, les jeunes, bon, c'est pas seulement les jeunes, hein, mais tout le monde aujourd'hui, on est exposé. Dis à ton frère, on est exposé. Jeunes comme vieux, on est exposé. Maintenant, c'est l'été. Oh, Jésus de Nazareth. C'est l'été. C'est le droit légal. Même les chrétiens, c'est comme le droit légal de laisser libre cours à son corps, la liberté, quoi. C'est-à-dire que, comme c'est l'été, tu peux même plus, en tant que pasteur, dire à quelqu'un, mais ma soeur, c'est comment? Mais pasteur, c'est l'été. Donc, genre, même, toi, tu vois comment, là? comment tu vois l'affaire? C'est l'été, pasteur. On est en France. Donc, du coup, même les pasteurs, ils ne savent plus comment faire. Les décolletés, hein? les tenues d'été, là, transparents. J'étais à la marche hier, là, j'ai dit, oh, Jésus de Nazareth. C'est fort. Nous marchons pour Jésus. Tu vois la soeur là, qu'est-ce qui marche décolleté. Le boubou ici, là, hein, ventre ouvert. Comment elle appelle ça encore? Hein? Ah, il ventre, hein? Ah, je n'étais pas au courant de ça. Vous vous rendez compte? On est exposé. Et ça, c'est dangereux parce que, voyez-vous, ça, ce sont des occasions. Hein, le diable utilise ça pour oppresser les hommes, les femmes, les jeunes, tout le monde. On est exposé. Et c'est vrai que, humainement parlant, aujourd'hui, tu ne peux pas résister. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions résister? Qu'est-ce qui peut nous aider à résister et à vivre dans ce contexte différemment des autres hommes qui sont sur la terre? Qu'est-ce qui fait que nous puissions agir à contre-courant et nous sentir à l'aise dans notre façon de vivre, sans pourtant que nous puissions subir ça comme un poids? C'est le don de la grâce. La grâce est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne de vivre dans un contexte où tous les communs des mortels ne peuvent pas faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que tout le monde, sur 100 Français, 90 Français, vont trouver normal de faire ça. Ils vont faire ça. Mais toi, tu fais différemment. C'est ça le pouvoir de la grâce divine, bien-aimé. Alléluia. Donc, quand l'apôtre Paul, ici, prie et que Dieu lui dise, ma grâce te suffit, Dieu lui fait comprendre seulement que, quelles que soient les situations que tu traverses, avec le pouvoir de ma grâce, tu es capable de réaliser des choses qu'aucun homme ne peut réaliser dans un contexte pareil. Quelqu'un qui est malade, est-ce que quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se lever, qui a des douleurs, est-ce que quelqu'un comme ça peut faire des travaux? Est-ce qu'il peut se lever pour aller au marché? Est-ce qu'il peut réaliser certaines choses? Tu es malade, tu es acculé, tu es atteint d'un cancer qui normalement devait aliter d'autres personnes. Le médecin te pose même la question, mais attends, comment tu fais pour même venir ici me rencontrer? Je me souviens d'une sœur, elle avait fait un accident et elle était atteinte d'un traumatisme. Non, pas un traumatisme, c'était quasiment ça. Et donc, le médecin lui a dit, en fait, il fallait qu'elle reste allongée, il ne fallait pas effectivement qu'elle bouge, et que s'il fallait qu'elle vienne à l'hôpital, aux séances de rencontre avec lui, il fallait effectivement qu'elle se fasse accompagner, etc. Donc, elle arrive un jour, le médecin pensait qu'elle était venue accompagner. Elle arrive, elle était bien portante, elle a suivi elle a eu son entretien avec le médecin pour le suivi médical, etc. Elle avait un repos, je crois, de 3 mois. Durant lequel elle ne devait pas bouger, elle devait rester à la maison. Et à la fin de l'entretien, le médecin lui dit, je vais vous conduire, c'est qui la personne qui vous a amené, je vais vous conduire jusqu'à la salle d'attente, c'est qui la personne qui vous a amené, qui vous a accompagné. La sœur dit, non, je suis venue toute seule. Le médecin l'a regardé, mais comment ça? Vous voulez me dire que vous conduisez? La sœur dit, oui, je conduis. Dans votre état? Oui, je conduis. Et le médecin l'a dit, vous aurez besoin d'un psy? Vous ne voulez pas que je vous prenne rendez-vous avec un psy? La sœur dit, non, je n'ai pas besoin de psy, je vais très bien. Et ce n'était pas juste un slogan ou bien une confession de foi positive. dire, même si j'ai mal, je dis, au nom de Jésus, je vais bien. Non. Elle allait réellement bien. Elle se sentait bien dans son corps. Elle se sentait bien dans sa tête. Alors qu'à temps normal, et selon le médecin, à cette étape, à ce niveau de son traitement, elle ne devait pas être capable de faire ce qu'elle est en train de faire. Au point que le médecin était tellement choqué qu'il a posé la question, est-ce que tu n'as pas besoin d'un psy? Elle allait au champ, à Carrefour, à Auchan. Elle faisait ses courses, elle faisait tout. Pourtant, à ce niveau du traitement, elle n'était pas capable de le faire à temps normal. Pourquoi? À cause du pouvoir de la grâce de Dieu, le don de la grâce. Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui? Dis-moi ce que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui et je dirai comment tu serais capable de le faire. Par le don de la grâce. Alléluia. Je me souviens quand je me suis converti, j'avais vraiment vécu, malheureusement, j'aime souvent le dire, j'étais bien jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai connu le Seigneur. Et puis, après avoir connu le Seigneur, j'ai refait un tour en Égypte. Et j'y suis resté quelques années en Égypte. Malheureusement, c'est là que j'ai connu le monde. Malheureusement. Et quand je reviens dans le Seigneur, j'avais du mal à laisser certaines choses. J'avais vraiment du mal. Et un jour, donc j'avais pris un engagement avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ferai plus ça. Et je respectais. J'avais réussi à faire comme ça un an sans plus tomber dans le péché. Et un jour, je suis tombé à nouveau dans le péché. Oh là là. Le diable m'a montré le tableau de ma vie. Il m'a dit, tu vois, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait pendant un an, tu as annulé ça en un instant, hein, en quelques fractions de seconde, tu as annulé tout ce que tu as fait pendant un an. C'est fini. Dieu ne peut plus te pardonner. C'est fini. Et j'étais vraiment triste, j'étais sous le poids de la culpabilité. Je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et je pleurais. Et pendant que je pleurais et je priais, bien-aimé, j'ai vécu une expérience que chaque fois que j'en parle, ça me donne dans mon dos, je sens comme un froid. J'avais les yeux fermés et je vois une main qui vient vers moi. Pendant que j'étais en prière, je vois une main qui vient vers moi et la main se pose sur ma tête. Et quand la main se pose sur ma tête, elle me frotte comme ça. Okay. Comme une caresse. Et j'entends une voix qui me dit, je t'aime mon fils. Je t'ai pardonné. Juste ces deux paroles, accompagnées de ce geste, et je pouvais sentir le toucher de cette main, ont procuré en moi une telle paix que jusqu'à présent, le diable ne peut plus jamais me culpabiliser sur ce point. Plus jamais. Et au sorti de là, je vous assure, j'ai reçu une telle conviction d'avoir été pardonné, une telle paix profonde que j'ai senti mon corps être libéré, dégagé de tous les poids, des fardeaux que ce péché faisait peser sur moi. Et quand je suis sorti de là, j'avais la joie. Je louais le Seigneur vraiment. Quand j'ai loué le Seigneur fort, les autres à côté se demandaient, mais pourquoi j'ai tant de joie? Moi seul, dans mon cœur, savais pourquoi j'avais autant de joie avec le Seigneur. Je réalisais le pouvoir de la grâce de Dieu. Et au sortir de cette expérience, je ne suis plus jamais tombé dans ce péché. Plus jamais. C'est bizarre. Je n'ai fait aucun effort. C'est-à-dire que j'ai fait pendant un an, j'ai respecté. Ça, c'était vraiment... Non, à la lettre, j'ai respecté. Je faisais très attention. Mais j'étais surpris. Au bout d'un an, je suis quand même tombé. Mais en une fraction de seconde, rien que par ce toucher, le toucher de la main du Père, alléluia, sur mon front, et cette parole qu'il a soufflée, qu'il a chutée à mon oreille, rien que par ça, ça suffit pour me délivrer. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais tombé dans ce péché. Ça, c'est le pouvoir de la grâce. C'est-à-dire que là où s'arrêtent les efforts de l'homme, Dieu intervient. Il t'accorde sa grâce. Alléluia. Et quand tu es délivré d'un péché par le pouvoir de la grâce, bien-aimé, tu ne peux plus tomber. Tu ne peux plus. Tu dois chercher la grâce de Dieu, bien-aimé. Tu dois prier pour que Dieu te donne le pouvoir, qui t'accorde le don de sa grâce. C'est-à-dire que la capacité surnaturelle de vivre la victoire sur le péché, là où le commun des mortels ne peut pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, vous qui n'êtes pas mariés, vous qui n'êtes pas mariés, préoccupez-vous des choses de Dieu, de comment plaire à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul, dans ce même verset, parle du don du célibat. Il parle du don du célibat. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et souvent, à l'époque, quand je lisais ce passage, comme beaucoup de prédicateurs, on a prêché en disant le don du célibat, c'est réservé à des personnes qui ne sont pas appelées à se marier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelait, comme un peu l'apôtre Paul l'était, hein, les eunuques. Bon, l'apôtre Paul, par contre, il n'était pas eunuque. Hein. Lui, il était à l'époque marié. Okay, et selon certaines recherches, sa femme serait décédée. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de ne plus se remarier. Donc, il a servi le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. On dirait célibataire. Okay? Mais à l'époque, il n'était pas célibataire. Il n'est pas né comme ça et puis il n'a pas grandi comme ça. Donc, ce n'était pas un vin unique. Maintenant, il dit et il parle du don du célibat. Et souvent, je disais, le don du célibat, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne vas jamais te marier. Mais en fait, le don du célibat, ce n'est pas ça. Nous tous, avant d'être mariés, étant en Christ, Dieu nous a donné le don du célibat. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que vous devez vous préoccuper des choses de Dieu. Comment plaire à votre Dieu? Ça, c'est le don du célibat. C'est-à-dire que Dieu te donne la capacité surnaturelle de vivre ton célibat dans la sanctification. Là où tous les hommes ne peuvent pas, toi tu arrives à le faire. Tu vis ton célibat dans la sanctification. Pourquoi? Pas par tes efforts humains, mais par la capacité surnaturelle que Dieu te donne. Et tu peux réussir ton célibat par le don de la grâce. Et je crois aussi, plus qu'il y a un don de célibat, je crois aussi qu'il y a un don de mariage. Pas le don de mariage dans le sens que maintenant, voilà, on va se marier facilement. Ok? Mais c'est-à-dire que quand tu es marié, il y a un don aussi pour le mariage, pour vivre ta vie de mariage, pour être fidèle à ton mari, être fidèle à ta femme. La capacité surnaturelle d'être fidèle à ta femme, pas seulement par tes efforts personnels, mais par la capacité qui vient de Dieu, le don de la grâce. Là où tout le monde trouve normal, effectivement, que voilà, un homme ne peut pas rester comme ça, franchement, attends, t'as déjà vu ça? L'essentiel, c'est qu'elle ne le sache pas. Bon, tu fais tout. Hein, en Afrique, respecter sa femme, c'est pas être fidèle à sa femme. Hein. Respecter sa femme, c'est vraiment tout faire pour que sa femme soit honorée, même par la copine à l'extérieur. Donc, tu rencontres le deuxième ou le troisième bureau, tu dis, bon, écoute, tu sais que toi et moi, hein, ma femme, c'est celle qui est à la maison. D'accord? Donc, si tu veux qu'on continue, tu la respectes. Okay? Je ne veux pas entendre quelques paroles, machin. Si j'entends, c'est fini entre deux. Plus que celui qui paye le loyer, celui qui sort, qui finance. Donc, l'autre, le deuxième bureau, le troisième bureau, est obligé de la fermer. Vous comprenez? Et aussi longtemps que le secret reste caché, le mari, pour lui, il respecte sa femme. Ça, c'est la conception. Dis à ton frère, doctrine et démon. Ça, c'est la conception. Hein? Dans certaines cultures, je ne sais pas si c'est seulement en Afrique, hein, je ne sais pas si c'est aussi ailleurs comme ça. Voilà. Donc là où tout le monde trouve normal de faire ça, toi tu arrives, tu fais différemment. Et ceux qui le font se posent la question, comment tu arrives? Est-ce que tu n'as pas vraiment une vie cachée? Ils vont commencer à t'épier. Est-ce que réellement tu le fais? Ce n'est pas de l'hypocrisie. Non, tu le fais sincèrement, vrai. Tu es dans ton cœur, tu es sincère et tu sais que c'est vrai. Tout le monde, même si tout le monde se pose des questions, toi tu entends que c'est vrai, Dieu le sait. Tu viens de la pureté, dans la sainteté. Tu respectes ta femme, tu es fidèle à ta femme, tu la déshonores pas, tu ne pêches pas, tu ne commets pas d'adultère, et c'est vrai. Dieu le sait, les démons aussi le savent, et toi-même tu le sais. Et les gens se posent la question, comment tu arrives à le faire? Dis à ton frère, le don de la grâce. C'est ça le pouvoir de la grâce. Alléluia. Lèvons-nous un instant. Comment je peux vivre dans l'alliance? Premier principe aujourd'hui, comprendre le pouvoir de la grâce. le don de la grâce de Dieu. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas mécomprendre ce don. Il faut vraiment le comprendre. Ne le prends pas dans le sens que tu as toujours plus qu'aujourd'hui. Comprends ça différemment. La grâce, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas un prétexte de vivre dans le péché de façon volontaire et libre. Non. La grâce, c'est un don. C'est un pouvoir surnaturel que Dieu te donne de pouvoir transcender les réalités, même le péché. Être capable de vivre dans la victoire, de vivre dans la sanctification, là où le commun des mortels trouve que ce n'est pas normal que tu le fasses. Mais que c'est plutôt normal que tu fasses comme les autres. Être capable, même quand tu es malade, de faire des choses qu'un malade ne peut pas faire. Être capable, quand tu es dans les épreuves, de faire et de réaliser des choses que quelqu'un qui est dans les épreuves ne peut pas faire. Être capable, quand tu vois ta vie, tes études, ton niveau intellectuel, être capable de réaliser des choses que même ton niveau intellectuel ne te donne pas la possibilité de faire. Parce que le pouvoir de Dieu, le pouvoir de la grâce de Dieu, le don de la grâce t'en donne la capacité surnaturelle. Si tes études, ton niveau d'études, ton niveau scolaire, ton niveau intellectuel n'a pas prévu que tu sois à un certain poste dans la société, le don de la grâce te donnera le pouvoir d'accéder à ce poste. Quand on voit ton parcours, normalement, tu ne peux pas parler à des foules. Mais cependant, Dieu t'appelle. Il te dit, je t'appelle à prêcher à des foules. Je t'appelle à prêcher aux nations. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai la langue lourde. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas un grand niveau intellectuel. Comment pourrais-je faire pour lire la parole de Dieu, la comprendre, la décortiquer? Il te dit, ma grâce te suffit. Car dans ta faiblesse s'accomplit ma puissance. C'est ça le don de la grâce. C'est ça le pouvoir de la grâce de Dieu. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons apprendre à vivre dans la grâce, à vivre dans l'alliance. Et tu nous as montré comment vivre dans l'alliance. Premier principe, comprendre le mystère de la grâce divine. Comprendre le pouvoir de la grâce divine. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs, Seigneur. Et puisse travailler dans nos vies durant toute cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Multiplie les dons spirituels. Car les dons spirituels également font partie du don de grâce. Pour que là où ils n'étaient pas capables de guérir des malades, ils soient capables de guérir des malades. Je pense aux leaders de l'église. Je pense aux collaborateurs. Même à tout le monde, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent chasser les démons, qu'ils puissent guérir les malades, qu'ils puissent ressusciter les morts, que nous puissions nager dans la puissance de Dieu par le don de la grâce. Donne-nous de vivre durant toute cette semaine, encore une fois de plus, une expérience particulière au travers du don de la grâce, même dans notre lieu de travail, Seigneur. Donne-nous la capacité de faire des choses que nous ne pouvons pas faire autrefois. Donne-nous la capacité de comprendre des choses que nous ne comprenions pas autrefois. Je prie pour les étudiants aussi, qui sont en période d'examen en ce moment, Seigneur, jusqu'en fin juin. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que le don de la grâce leur soit accordé dans leur intelligence, dans leurs études, pour transcender les réalités, des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire, dans le nom de Jésus, afin de leur garantir le succès dans l'alliance. Merci, Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et ne nous quitte plus jamais. Que le don de la grâce soit collé à notre vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.